magazine de l'environnement.
Si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie de Nicolas Hulot aujourd'hui qui a lancé cette semaine une pétition Osons pour inciter les chefs d'État à avoir de l'ambition lors de la fameuse conférence de Paris sur le climat. Déjà plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de signatures. Alors pour expliquer votre démarche, Nicolas Hulot, vous publiez un petit livre accessible, hein, 4,90 €. Ça fait un peu penser au Indignez-vous de Stéphane Hessel finalement, aux éditions Les Liens qui Libèrent, Osons, plaidoyer d'un homme libre, dans lequel vous détaillez les 12 propositions essentielles pour les décideurs politiques. Alors, comme tous les auditeurs, surtout nos auditeurs à RFI, ne pourront peut-être pas lire ce livre, je vais lire ces 12 propositions, à moins que vous souhaitiez le faire vous-même, c'est peut-être mieux.
Non, je vous laisse le lire, je les détaillerai, parce que, évidemment, après, nous les analysons et nous les commentons dans cet ouvrage. Simplement vous dire que, pourquoi est-ce qu'on a mis ça en exergue? Il peut y en avoir moins ou plus, mais ce qui fera le succès et la crédibilité de Paris, c'est pas tant les engagements, mais ce sont surtout les instruments dont on va ou pas se doter, parce que vous pouvez promettre la Lune, mais si vous nous expliquez pas comment on y va et avec quoi on y va, personne n'y croira. Et donc là, l'heure n'est pas de promettre la Lune, peut-être de la promettre, mais de nous dire comment on y va. Et il y a un certain nombre d'instruments qui sont des préalables ou indispensables si l'on veut être crédible dans nos engagements.
Alors, 1. Réguler enfin la finance. 2. Mettre l'économie au service des humains. 3. Mettre fin aux abus des multinationales. 4. Produire et consommer dans un cercle vertueux. 5. Démazouter les investissements, vous en avez parlé. 6. Intégrer la pollution au prix de vente. 7. Garder sa couleur bleue à la terre. 8. Préserver les sols, support de la vie. 9. Nourrir sans détruire. 10. Renforcer la justice sociale pour combattre le dérèglement climatique. 11. Réinventer la démocratie. Et 12. Donner une gouvernance mondiale à l'environnement. Est-ce que l'ordre de ces propositions révèle pour vous la hiérarchie de leur importance?
Non, parce qu'elles sont toutes importantes, et on pourrait même dire qu'elles sont peut-être même insuffisantes, mais elles sont essentielles. Si 15 pays qui représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre qui vont se retrouver au G20 en Turquie 15 jours avant la COP s'emparaient de la plupart de ces propositions, je peux vous dire que je dormirais un peu plus tranquille. Mais donner par exemple un prix au carbone, et que d'ailleurs la recette de ce prix du carbone puisse être affectée pour aider les pays du Sud ou à s'adapter ou accéder aux technologies propres. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? D'abord parce que si vous ne donnez pas un prix au carbone et que ce prix ne soit pas programmé pour évoluer et croître dans le temps, les investisseurs privés n'auront absolument pas intérêt à investir dans une économie bas carbone. Donc il faut donner un signal prix pour que le secteur privé bascule ses investissements vers l'économie bas carbone. Tous les économistes sont d'accord.
Mais il y a même de nombreuses entreprises qui le réclament aujourd'hui.
Qui commencent à le réclamer, peu importe les raisons pour lesquelles elles le réclament. Donc il y a une fenêtre d'opportunité absolument inespérée sur cela. Sans prix au carbone, sans un couloir de convergence du prix, on peut laisser une forme de liberté ou de souplesse pour que les pays, en fonction de leur situation, démarrent peut-être à 1 euro, 2 euros ou 2 dollars la tonne. Mais après, il faut tant. Mais imaginez, chaque année, nous émettons 50 milliards de tonnes de CO2. Ben, imaginez un prix moyen pour commencer, 4 dollars la tonne. Vous multipliez 50 milliards par 4, ça fait, vous avez déjà 200 milliards de dollars disponibles, dès lors que ce ne soit pas utilisé pour combler le déficit des États. Alors, c'est une piste. Mais si on n'est pas à la hauteur de ses ambitions, encore une fois, on ira de désillusion en désillusion.
Alors, votre pétition et votre plaidoyer sortent maintenant, hein. C'est dans la perspective de la 21e conférence des Nations Unies sur le climat. Alors, cette semaine, les co-présidents des négociations ont présenté un texte ramassé, hein, 25 articles pour une vingtaine de pages, qui sera sans doute, hein, le texte de base de l'accord de Paris, même s'il reste encore une semaine de négociations à Bonn. Ce sera du 19 au 24 octobre prochain. Alors, hier, dans C'est pas du vent avec Pierre Haddad, nous avons décrypté le contenu de ce texte. Vous pouvez retrouver nos échanges, d'ailleurs en vidéo, sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Mais aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Maxime Combes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et membre d'Attac France. Alors vous aussi, vous avez décortiqué ce texte de façon sévère, hein, puisque vous dites qu'il doit être rejeté. Alors expliquez-nous pourquoi.
Ouais, c'est relativement simple, c'est qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un sursaut qui vienne un peu du débat public, de l'opinion publique sur ce qui est actuellement proposé dans le cœur des négociations, ben on se dirige tout droit vers un texte qui va avaliser un réchauffement climatique, sans doute aux alentours de 3 degrés pour la fin du siècle. Et ce qu'il faut bien comprendre en matière climatique, c'est que tout retard pris ne peut pas être rattrapé. Et donc du coup, quand on regarde le cœur de ce texte, on se rend compte que finalement, les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre des pays ne seront pas à la hauteur des enjeux et ne seront pas négociés en tant que tels dans la négociation à Paris, ce qui est quand même incroyable. Aussi incroyable que ce point-là, quand on lit le texte, il n'y a strictement rien qui concerne de près ou de loin les énergies fossiles, le gaz, le charbon, le pétrole, qui sont à l'origine de près de 80% des émissions de CO2. On n'en parle absolument pas dans le texte. C'est comme si ce point-là était un point aveugle des négociations. Il n'y a ni plan pour déployer les énergies renouvelables aux quatre coins de la planète, ni proposition pour, par exemple, arrêter d'extraire les énergies fossiles.
Mais comme nous le disions hier dans l'émission, c'est le mandat même de l'ONU aussi qui veut ça. Hein. C'est-à-dire ce mandat de l'ONU ne permet pas qu'un texte comme celui-là impose quoi que ce soit aux États. Il faudrait revoir la charte de San Francisco de 1945.
Ah, il y aurait plein de choses à revoir, effectivement. On discute dans l'ONU plutôt le contenant que le contenu, mais donc avec des conséquences extrêmement fortes sur le fait qu'on a aujourd'hui des objectifs qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Effectivement, il y a des limites. Par exemple, il y a un article qui cadre les négociations, du texte qui organise les négociations, qui interdit toute mesure qui soit contraire aux règles du commerce international. Donc ça, c'est une limite extrêmement forte sur les possibilités pour la négociation d'aboutir à des objectifs que l'on peut partager. Quand Nicolas Hulot en présente quelques-uns comme réguler la finance, mettre l'économie au service des hommes et de la protection de l'environnement, tous ces objectifs-là sont intéressants. Le problème, c'est qu'ils sont contradictoires avec l'organisation même de ces négociations. Et donc, du coup, autre exemple faramineux quand même, l'aviation et le transport maritime, qui sont à l'origine de presque 10% des émissions de gaz à effet de serre dans leur totalité, et qui prévoient une augmentation de 250% de leurs émissions d'ici 2050. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans le texte qui est proposé qui vienne limiter les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation et du transport maritime. Et donc, oui, je suis intervenu publiquement et fortement dans le débat public sur ce texte-là en disant que ce texte-là ne peut pas être une base de négociation. Ce texte-là est à des années-lumière de ce que nous devrions faire et obtenir. Et donc, du coup, d'interpeller l'opinion publique et de dire que là, s'il n'y a pas un choc qui se déroule d'ici la COP, nous allons droit dans le mur du réchauffement climatique.
Merci Maxime Combes pour ce décryptage. Nicolas Hulot, comment réagissez-vous à ces propos ?
Ben, vous savez, c'est quelque part, la réaction de Maxime Combes, elle va dans le sens du cri que je lance. Et osons dire un certain nombre de choses. Arrêtons de camoufler les choses. C'est vrai que ce cadre onusien a ses limites. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis plus attaché à des décisions que les pays qui ont la capacité et la responsabilité pourront prendre, je dirais même en marge, à côté, et au moment du G20 en Turquie, et pour moi aussi important que des engagements qui seront ou pas tenus, ce sont les instruments que les États doivent mettre en œuvre, au premier rang desquels des financements innovants, s'engager, parce que au-delà de l'accord de Paris, qu'est-ce qui empêche justement les grands émetteurs de prendre unilatéralement des engagements. Et je partage évidemment l'inquiétude qu'on ne soit pas à la hauteur, et on n'est pas à la hauteur.
Oui, mais en même temps, est-ce que on ne peut pas tout attendre de l'accord de Paris?
Force d'attendre, le phénomène vont nous échapper. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui meurent chaque année, et il y a des dizaines de millions de personnes qui sont obligées de quitter leur territoire. Alors eux, ils n'ont pas la même patience que nous, et ils n'ont pas forcément la même lecture. Bon, je pense que c'est le rôle d'attaque de dire les choses telles quelles. Moi, je prendrai de toute façon les engagements des États, parce que ça sera de toute façon inédit et ça lancera une dynamique. Mais il faut pas travestir la réalité. Pour l'instant, nous ne sommes pas sur la trajectoire, non seulement en dessous des 2 degrés, parce qu'on parle des 2 degrés, mais on doit être en dessous. Et on n'est même pas en dessous des 3 degrés. Voilà. Donc déjà, il faut le dire. Voilà, le dire. Après, chacun assume ses responsabilités. Il faut le dire. Il reste 2 mois, et on va pas à 2 mois commencer à tamiser la réalité, parce que d'ici là, les chefs d'État, à ce que je sache, ils ont quand même des pouvoirs, je l'espère. C'est pour ça que moi je lance mon appel aux chefs d'État, et notamment aux plus puissants, parce que ils ont encore la possibilité, s'ils le veulent, de rentrer dans la grande histoire. Voilà, s'ils veulent être au panthéon de l'histoire, qu'ils ne se résignent pas à nous réduire et à nous rétrécir.
Alors en même temps, il y a des choses qui se passent en dehors de cette sphère des Nations Unies. génie. Hein. Je veux dire, beaucoup de pays investissent vers les énergies renouvelables. Il y a des entreprises qui modifient aussi leur mode d'action.
Entre dire qu'il ne se passe rien et que tout ça ne sert à rien et dire que pour l'instant et dire là. Mais comme le dit le problème, c'est qu'on pourrait se contenter des avancées et dire puis ça va s'accélérer. Mais comme vient de le rappeler notre ami, c'est que la fenêtre d'opportunité est très courte. Il y a ce que l'on va déterminer ou pas, on va déterminer l'irréversibilité ou pas du phénomène. Et donc c'est pour ça qu'on peut on peut pas s'accommoder d'engagements qui sont pas ou de moyens qui sont pas à la hauteur. Et au risque de me répéter, c'est pas forcément les 196 États qu'il faut interpeller, même si d'ailleurs parfois les États qui sont victimes ont parfois des engagements qui sont même beaucoup plus audacieux et courageux que les pays qui sont responsables, mais ceux qui ont les clés en main, pour moi notamment, ce sont les pays du G20.
Et puis il y a la mobilisation citoyenne, on en parle après une petite pause musicale. Sur RFI en compagnie de Nicolas Hulot qui vient de sortir cette semaine une pétition et un livre « Osons, plaidoyer d'un homme libre » publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Alors pour inciter d'une part les chefs d'État à être ambitieux à la 21e conférence des Nations Unies sur le climat qui se déroulera à Paris début décembre et puis aussi les simples citoyens que nous sommes à agir aussi au quotidien. On parle beaucoup depuis le début de cette émission des États du monde, des chefs d'État, du commerce international, etc. Mais l'action de chacun, même si ça ne suffit pas, mais a quand même un rôle à jouer. Et alors là, vous faites aussi des recommandations pour les individus, 10 engagements, se déplacer à plusieurs ou sans moteur. Enfin ça, quand on écoute ça en Afrique, ça amuse un petit peu parce qu'ils le font depuis longtemps.
Attention, comprenez bien dans les engagements que vous allez lister. C'est, d'abord, c'est à la carte. Mm. C'est selon les facultés, les disponibilités, les possibilités, et puis on peut en inventer plein d'autres. Derrière ça, c'est simplement montrer que dans des engagements individuels, dire au chef d'État, nous on est prêts. On est prêts à changer, mais faites en sorte de nous faciliter la tâche, que ça soit pas économiquement impossible pour nous. Parce que vous n'avez pas demandé à tout le monde d'acheter une voiture électrique, je caricature, mais parce qu'elle est plus chère de prendre de la nourriture d'agriculture biologique, parce qu'elle est plus chère. Donc il faut qu'il y ait le cadre pour que la volonté individuelle rencontre l'organisation collective.
Oui, parce que par exemple, mettre son argent au vert, c'est, on n'y pense pas souvent, mais c'est pas si simple, finalement,
c'est
de changer
si
de banque.
Enfin,
encore faut-il avoir un compte en banque.
Ils peuvent peut-être prendre le temps, le soin de vérifier où leur épargne est mise. Changer de fournisseur d'énergie et s'approvisionner chez un fournisseur qui produit de l'énergie renouvelable, c'est pas si compliqué ça. Faire de l'autopartage, c'est pas si compliqué que ça. Mais encore une fois, ce qui est surtout important, je pense, et ça vaut pour moi comme pour tout le monde, c'est un moment ou un autre de briser ces espèces de comportements compulsifs ou impulsifs que nous avons de consommation. C'est-à-dire qu'on fait les choses sans réfléchir. Et essayer d'incarner une forme de modération, non pas de privation, mais de dire, tiens, ça, est-ce que j'ai besoin de le jeter? Je peux le faire réparer? Est-ce que ça, je peux le faire recoudre? Est-ce que bon, voilà. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Insuffisantes, certes, mais enfin, multipliées et répéter chaque jour par des milliards de personnes, c'est quand même important, mais surtout prendre le temps du choix. Voilà. Et que quand vous avez un produit qui est plus vertueux qu'un autre, on va prendre celui-là. Moi, j'ai cessé d'aller dans des grandes surfaces, je m'en porte pas plus mal, je vais dans des coopératives bio, il y a tout pour mon bonheur et ceux de mes enfants, et j'encourage, me semble, des filières. Bon. Mais surtout pas.
Mais ça s'adresse quand même un peu aux plus riches, vos recommandations. Hein.
Non. Parce que parfois on fait beaucoup d'économies. Croyez-moi, vous allez avec vos enfants dans des grandes surfaces, vous allez être tenté par des tas de choses inutiles. Vous allez dans une coopérative bio, vous allez prendre l'essentiel.
Quand je voulais dire aux pays des plus riches, je pensais plutôt aux gens qui habitent dans les pays les plus riches.
Non, mais on est bien d'accord. Mais parce que la responsabilité, c'est pas une préoccupation de riches. L'écologie, c'est un devoir de riches, riches au sens des pays et parfois des personnes. C'est à eux de montrer l'exemple. Et je rappelle quand même que nous sommes dans un monde où vous avez 1% qui capte 50% des richesses du monde. Donc c'est à eux que je m'adresse.
Et pourtant, la mobilisation s'organise dans le monde entier. Le mouvement Alternatiba, par exemple, que vous connaissez certainement, qui a été lancé à Bayonne en France en octobre 2013, organise des villages de solutions climatiques justement pour donner aux citoyens les moyens d'agir. Il y en a déjà eu dans plus de 110 villes en France. Et ça commence à faire des émules à l'étranger, par exemple en Haïti.
Je suis David Tillus, du groupe d'action francophone pour l'environnement, le GAF, qui est une organisation haïtienne qui travaille en éducation à l'environnement et en développement local. On fait de la sensibilisation au niveau des écoles et on travaille avec des enseignants sur cette question. On a un magazine spécial qu'on a créé, TIMAG, le magazine de l'éducation à l'environnement. Et ensuite, on travaille avec les collectivités locales, les élus. On donne des outils d'accompagnement et des outils de formation pour qu'on arrive à essayer de sensibiliser la population autour de cette question.
Donc les 16 et 17 octobre, vous organisez à Keskov, donc c'est au nord de Pétionville, un Alternatiba. C'est le premier Alternatiba qui est organisé en dehors d'Europe. Alors comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous avez prévu?
Il y a toute une mobilisation des acteurs autour de cet événement. Et il va y avoir des animations avec des enfants. Il va y avoir des animations avec des jeunes, des conférences, des débats. Mais c'est pas pour poser des problèmes. C'est de proposer des solutions avec les acteurs, les citoyens. Et ensuite, on va avoir deux concerts en fonction des thématiques identifiées fortes pour essayer d'appuyer et de proposer des alternatives lors de la COP21.
Qu'est-ce que vous allez mettre en avant comme type de solution? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir?
Maintenant, on est fatigué avec le monde politique, la façon de se faire. C'est de créer des engagements auprès des citoyens pour qu'on arrive à les pousser, à les sensibiliser, de prendre en main leur destinée. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est de proposer des expériences qui ont vécu en milieu rural et pour essayer de les mettre en exergue concrètement au niveau de la façon de traiter l'eau, la façon de vivre, la façon de manger, tout ça. C'est l'ensemble de ces éléments qu'on va essayer de s'organiser pour montrer des alternatives qui existent dans le pays ou qu'en milieu rural, il y a des expériences qui marchent et qui donnent des résultats.
Est-ce que vous allez parler, par exemple, de la lutte contre la déforestation qui est un vrai problème en Haïti?
On ne peut pas faire le mouvement d'Alternatiba à Keskov si on n'aborde pas cette question. Et là, c'est l'une des raisons qu'on a fait sortir un article des défis écologiques en Haïti, anti-hypocrisie institutionnelle et inconscience politique. C'est une façon de les faire comprendre. Si on n'attaque pas le problème aujourd'hui, c'est sûr, dans 3, 4, 5 ans, je ne sais pas comment on va se faire pour vivre dans ce pays.
Et vous pensez qu'il va y avoir beaucoup de participation? Vous attendez beaucoup de monde?
Il y a toute une mobilisation. Les 10 départements ont été touchés. Même au niveau de la diaspora, il y a des gens qui sont sensibilisés, qui veulent rentrer pour participer à cet événement.
Eh bien, bravo. Et puis, bonne Alternatiba, alors.
Merci beaucoup. En espérant d'avoir RFI avec nous sur le terrain.
Et Amélie Baron, notre correspondante à Haïti, a été prévenue. J'espère qu'elle pourra en effet aller assister à cette Alternatiba. Nicolas Hulot, c'est formidable quand même de voir cette mobilisation en Haïti.
Connaissez ce proverbe qui dit « dans une forêt, on entend l'arbre qui tombe, mais pas les milliers d'arbres qui poussent ». Le changement, il est en marche. L'humanité est en train de se prendre en charge. L'humanité qui pille, qui détruit, qui spolie, qui haït, c'est un petit échantillon de l'humanité, mais il y a une humanité invisible qui agit, comme ce qu'on vient de voir. Et c'est pour ça qu'il faut que les chefs d'État l'entendent. Elle est prête à accueillir le changement. Elle montre d'ailleurs le chemin. Elle le fait pour l'instant pacifiquement. Mais justement, si les hommes d'État ne montrent pas le chemin, attention que les peuples ne se feraient pas la voie différemment. Voilà. Mais il suffit simplement d'encourager ça, d'accompagner ça et de sortir d'un modèle pour rentrer dans un nouveau modèle. Et puis, encore une fois, de remettre l'humain partout. partout, et puis de se réapproprier le pouvoir. Parce que nous sommes dans beaucoup d'États, dans des démocraties, mais des démocraties un peu en trempe-l'œil, parce que pour finir, le pouvoir, il n'est pas forcément là où on l'imagine, il est là où l'argent a été concentré. Ce sont des lieux communs, mais c'est la vérité. C'est la situation du monde, et il faut le dire, parce qu'on ne peut pas se résigner à cela, et c'est pour ça que le temps est au courage, à l'audace et à la résistance, au fatalisme.
Donc vous pensez que à travers des exemples comme celui que l'on vient d'entendre et toutes ces micro-mobilisations
mais
qui commencent
ces,
à faire tache d'huile...
Tous ces petits ruisseaux, à un moment ou à un autre, elles vont se rejoindre, ces petites rivières, et sera balayé comme dans un fleuve en crue un modèle qui a voulu résister parce qu'il a voulu boire le profit jusqu'à la lie. Donc ça n'est même pas l'intérêt de ces gens-là, l'histoire est en marche. La seule question c'est est-ce que les choses se feront pacifiquement, est-ce qu'elles se feront de gré ou est-ce qu'elles se feront de force?
Voilà, c'est exactement la question que j'allais vous poser, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on voit cet afflux de migrants à nos portes, qui les franchissent d'ailleurs, avec un accord politique plus ou moins dédaigneux. On sait bien que ces flux-là ne vont pas aller en diminuement, et pourtant,
quand j'ai fait,
on a l'impression
quand...
qu'il y a une politique de l'autruche, un
vous
peu.
Vous savez peut-être pas, mais j'ai fait un seul film dans ma vie qui s'appelle « Le syndrome Titanic ». Je mettais en garde contre cela. Je disais qu'on pouvait mettre tous les murs virtuels pour ne pas regarder la réalité, ou les murs réels pour éventuellement s'en protéger. Mais ça ne tiendrait pas. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce qui se décide à la conférence de Paris, c'est pas simplement de protéger la planète. C'est la guerre ou c'est la paix. Et moi, je fais en sorte, j'essaye à mon petit niveau, comme chacun d'entre nous. Il y a des choses plus visibles et d'autres moins visibles, mais tout aussi utiles, que nous allions vers une paix durable. Et pour qu'il y ait une paix durable, il faut être dans une société du partage et de la solidarité.
Alors je cite Monique Barbu, qui est secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Elle fait un lien très clair entre la guerre en Syrie et les changements climatiques, entre la situation d'insécurité autour du lac Tchad et les changements climatiques. Vous pensez que ce genre d'exemple peut peut-être faire bouger un peu
Mais
les choses?
Il faut utiliser tous les arguments. D'abord pour que justement on se rende compte que ne se joue pas simplement un enjeu environnemental, pour montrer que ça peut avoir des conséquences en positif ou en négatif gigantesques. Oui, le changement climatique a été parfois un facteur aggravant et qui a pu mettre le feu aux poudres dans différentes séquences. Et effectivement, ça a été le cas au moment du Darfour, ça a été le cas en Syrie. C'est probablement ce qui a fait aussi le lit de Boko Haram dans cette région d'Afrique. Oui, c'est important. Mais ce que dit aussi Monique Barbu, qui est très important, et c'est aussi une chose qu'il faut pas oublier, c'est que, oui, il va falloir qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre, mais il va surtout falloir qu'on cesse de détruire les écosystèmes qui stockent gratuitement depuis des millions d'années des gaz à effet de serre. Il va falloir reforester. Il va falloir réhabiliter des sols, notamment pour préparer le 1,5 milliard d'individus qui va arriver d'ici 2050 et qu'il va falloir nourrir. Donc il vaut mieux mettre aussi nos efforts pour la réhabilitation des sols, lutter contre la désertification. Il va falloir également réhabiliter les zones humides, il va falloir protéger les océans. Donc si on fait pas tout ça simultanément, très sincèrement, on va avoir du mal à y arriver, mais la réhabilitation des sols, c'est aussi une des priorités que les États doivent mettre en œuvre.
Et ça ne coûte pas si cher.
Non, Monique Barbu le démontre très bien. C'est souvent la manière la plus efficace et la moins onéreuse de stocker du CO2, mais avec une autre dimension, c'est que ça permet de refixer ou de faire revenir des populations qui ont fui leur territoire. Ça permet, encore une fois, de réhabiliter des milliers d'hectares de terres agricoles et de produire des aliments pour les nouvelles bouches qui vont nous rejoindre. Et ça combat la désertification, c'est-à-dire ces populations qui sont condamnées à l'exode.
Donc on a besoin quoi? D'un sursaut d'intelligence et
de changer d'échelle,
d'innovation politique,
de volonté collective, de vision, et de définir ce qui est prioritaire ou pas, parce qu'il y a parfois des milliards de dollars qui vont sur des choses totalement inutiles, et donc il faut définir ensemble ce qui est prioritaire ou pas, ce qui répond aux contraintes du 21e siècle et non pas ce qui répond aux objectifs du 20e siècle.
Et la seule instance que l'on connaît aujourd'hui pour faire cela, ce sont les Nations Unies.
Oui, mais là aussi, il y a quelque chose qui a disparu de nos écrans radars. C'est le principe d'une organisation mondiale de l'environnement. À un moment, il y a eu un élan, il y avait 60 et quelques États qui avaient été réunis à Paris sur ce thème-là. On peut pas laisser la planète sans gouvernance. On peut pas faire en sorte que les biens communs puissent être soumis à une forme de spéculation. Il faut les soustraire à la spéculation. Dans les biens communs, il y a les ressources alimentaires, les ressources naturelles, les grands équilibres, entre autres, les sols. Et donc, si nous ne mettons pas en œuvre à un moment ou à un autre une institution qui est un vrai pouvoir politique, qui corresponde à ces enjeux universels, je pense que d'aller de conférence en conférence, ça ne suffira pas.
Donc remplacer l'Organisation mondiale du commerce par l'Organisation mondiale de l'environnement, par exemple ?
Non, on peut y adosser une institution, une organisation, mais qui devra, à mon avis, avoir la main, ou en tout cas une voix, une autorité supérieure, bien entendu. Mais ça, c'est pareil, ça sera incontournable. Mais est-ce que nous le ferons trop tard ? Vous savez, Victor Hugo a dit une chose merveilleuse, il a dit « Le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable ». Ben, profitons du petit temps que nous avons pour faire cette révolution à l'amiable. Voilà. Mais pour faire une révolution, faut pas penser petit, faut penser en grand. Et pour l'instant, on y va, me semble-t-il, trop modestement.
Alors, votre pétition, donc, on peut la signer sur...
Alors, c'est très important. Vous savez, parfois, un petit clic peut nous éviter, comme on dit, une grande claque. D'aller sur le site de la Fondation Nicolas Hulot ou d'aller sur Osons agir pour la planète. Parce que, bon, on peut dire à quoi ça sert la pétition, c'est pas la seule, etc. Je sais d'expérience que ça n'est pas inutile, surtout si on arrive à faire masse, et je vois bien le microcosme politique bouger dès lors qu'ils sentent qu'il y a un souffle puissant qui s'adresse à eux.
Merci Nicolas Hulot, merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Prenez soin de vous et des vôtres, on se retrouve samedi prochain, même planète, même heure. Nicolas Hulot, c'est la fin de cette émission, alors je vous laisse en faire la conclusion.
Eh bien écoutez, osons croire en l'humain. Et la meilleure conclusion que je puisse faire, c'est de citer cette phrase de Camus qui disait « Celui qui désespère des événements est un lâche, celui qui croit en la condition humaine est un fou, eh bien, osons être fous. »